Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode un peu spécial, mais numéro 46 du Roi Steven. Salut.
Le monteur, il va s'amuser.
Ouais. C'est... Et j'ai l'impression que, tu vas la faire chier du début à la fin. Oh, pardon. Que le ou la.
Ouais. Moi, c'est moi qui monte cet épisode et je vous préviens, toute piste qui ne me conviendra pas sera supprimée. Et au pire, je garderai que la mienne.
Tu referas toutes nos voix en imitation.
Ouais, peut-être, on avance.
Je coupe tout de suite, du coup.
Pas sûr. Bon, comment vous allez? Alors, qui est-ce qu'on a là ce soir? On a Grand Poil.
Bonsoir.
On a Urde et son nouveau micro.
Bonsoir. Et le chat qui vient faire chier, comme d'habitude. Donc.
Le fion du chat dans la face.
On a Julien qui est très très en forme.
Bonsoir.
Et Emeric.
Ah, bonjour, bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Yeah, mais ça c'est va bientôt bien. Les vacances.
Ça fait plaisir de vous revoir aussi vite.
oui. C'est un peu particulier puisque cet épisode sort au début du mois et pas au milieu du mois comme d'habitude pour éviter d'avoir un épisode de 5h30 à la moitié du mois de mai. Donc ce coup-ci, on va juste parler de la deuxième nouvelle du livre qu'on a lu, et puis ça sera tout. Et ça sera
déjà
pas mal.
Ce livre.
Mais comment s'appelle-t-il? Mais je passe la parole tout de suite à Emeric, évidemment.
Vous me dites livre, mais non, car en fait, nous allons parler d'Atlantide, l'Empire perdu, ou Atlantis, l'Empire perdu au Québec. C'est qui est le 71e long métrage d'animation, le 41e classique d'animation des studios Disney sorti en 2001, dans lequel Milo Touch, expert linguiste et cartographe, est obsédé, comme son grand-père, Thaddeus, par la recherche du manuscrit du berger qui, d'après la légende, est un guide menant à l'Atlantide. Preston Whitmore, un vieux millionnaire excentrique et ami de longue date du grand-père, apprend à Milo qu'il finançait les recherches de Thaddeus et lui donne le manuscrit.
Alors, on n'a pas parlé de ça il y a deux semaines, mais moi je suis content, je veux bien en parler.
Hein. Et on n'a pas dit qu'il finance une expédition pour trouver l'Atlantide.
On fait pas les adaptations aujourd'hui. Hein.
Ah non, je me suis trompé, car nous allons parler de la deuxième nouvelle du recueil Cœur perdu en Atlantide, et qui s'intitule elle-même Cœur perdu en Atlantide.
Quelle surprise!
Toujours publié sous le nom de Stephen King et écrit par Stephen King. Toujours dans un recueil de 560 pages en français, 528 pages en anglais, sorti en 99 aux États-Unis et en 2001 en France.
Alors, en français, elle s'appelle Chasse-cœur en Atlantide.
La nouvelle, effectivement, c'est vrai. Car on nomme la nouvelle d'une façon différente du recueil, alors que le recueil en anglais porte le même nom des deux côtés.
Oh là là, c'est dommage. Et la couverture, alors, juste un petit point couverture, les précédentes couvertures te donnaient aucune idée de ce quoi allait parler le livre. les nouvelles couvertures du livre de poche, par contre, elles sont super jolies et elles sont vraiment complètement en raccord avec le contenu des nouvelles.
Parce que je t'avoue que ma version France Loisirs, il y a un yéyé. Un hippie, dessus. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ce bouquin?
Ah, si, ça.
Moi, sur la mienne, j'ai une couverture, on dirait juste un vieux paysage tout pourri où limite il y a de la neige, quoi.
Ah ouais, rien à voir. Moi, Il y a un rapport, mais quand j'ai vu ça, j'étais ok.
Si, toi, au moins, oui, il y a quand même
un rapport, mais tu te demandes lequel, quoi.
Et donc, une fois n'est pas coutume, Wikipédia nous fournit un résumé en moins d'une minute, qui est, pour cette nouvelle, « Cœur transpercé d'une flèche plus symbole de paix égale information.
» C'est un bon résumé, je pense qu'on peut arrêter là.
Merci pour
l'épisode.
Et voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Cette blague marche toujours.
Dès qu'il n'y a pas Émilie pour la ramener, ça va plus vite. Hein.
Ouh là là,
bon, de toute façon, elle n'écoute pas, donc elle ne le saura pas.
Hein. Si, elle écoute. Émilie, bisous.
Et qu'est-ce que vous avez donc pensé de cette nouvelle? Et je vais commencer par Julien, même s'il a déjà donné son avis.
Alors, j'ai toujours pas changé d'avis. Donc, j'avais trouvé cette nouvelle bof, surtout par rapport à la première que nous avons chroniquée. Et j'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'avais dit que ça me rappelait l'internat. Ça me rappelle toujours l'internat. Voilà.
C'est bien. Grand Poil. Est-ce que ton avis a changé? Ton avis est-il le même?
On va dire que c'est le même parce que je me souviens plus ce que j'ai dit la première fois. Mais j'ai pas envie de dire une connerie qui serait.
Écoute. Donc tout ce qui n'est pas dit là était dit dans l'épisode précédent numéro 45. C'est pour ça, parce qu'à la base on devait faire cette
nouvelle
dans l'épisode 45. Eh bien moi je vais redire ce que j'avais déjà dit. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle. J'ai parfois un peu galéré sur la prise de notes pour savoir ce qui était important ou pas, mais ça va, c'est quand même allé vite. Elle se lit toute seule. Je me suis beaucoup reconnue dans le personnage principal sur le côté procrastination et en plus être convaincue que tu peux y arriver. Genre typiquement partir de chez moi à 8h55, devoir être au boulot à 9h, j'ai 35 minutes de métro, mais ça va passer. Bon, voilà. Donc j'ai bien aimé cette... Et puis j'ai beaucoup pleuré à la fin. Voilà.
Et toi, Urde?
Moi, j'ai bien aimé encore plus que la première, parce que comme dit, moi, j'ai pas connu l'internat, et c'est quelque chose qui m'a toujours, je me suis toujours demandé comment c'était et tout, et voilà, on en parlera plus tard, mais l'espèce d'addiction qui leur arrive, je trouve ça vraiment super intéressant, en fait.
Eh ben, très bien, on va pouvoir passer à la nouvelle.
Toi, Emmerich?
Oui, j'ai oublié.
Ah ben, moi, je l'ai toujours pas lu, hein. Pour rester raccord, j'ai décidé de pas la lire. Je l'ai écouté en grande partie, mais j'ai vraiment eu du mal parce que c'est Stivou qui fait la narration et Stivou, oui, il est pas au niveau de William Hurt de la première nouvelle et puis des narrateurs que j'ai en ce moment sur La Tour Sombre et qui est phénoménal.
En français aussi, voilà. Il est phénoménal.
Il est vraiment.
Il est vraiment
phénoménal.
Je peux en rajouter ça, tu vas un peu trop voir des matchs.
C'est moi qui monte, je fais qu'est-ce que je veux. Je vais mettre plein de musique, vous allez voir.
Allons-y. On pouvait tout simplement pas arrêter de rigoler.
Je est entré à l'université du Maine en 1966, républicain, et en est sorti en 1970, hippie. Donc c'est ça qui doit faire la couverture du livre de...
C'est ça.
De Hurd. Le gars a lu que cette phrase-là.
Ouais.
Alors, on comprend que je, parce qu'à ce moment-là du bouquin, on sait rien de lui, on sait juste que c'est je, nous parle d'une époque qui est plus proche de la nôtre que de 1970. Il nous parle de sa jeunesse. Et en ce temps-là, il nous dit qu'il était encore un gamin, qu'il écoutait Donovan Leitch chanter une chanson sur l'Atlantide. D'ailleurs, le paragraphe finit par « Vive l'Atlantide ».
The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood.
Et cette nouvelle, elle est blindée de musique qui passait à la radio à cette époque-là, donc du coup j'ai fait une playlist Spotify et je la mettrai dans les détails de l'épisode. Vous pourrez aller l'écouter. À la fin de la fac, je vis dans une... Oui, mais elle est agréable, j'ai découvert des chouettes trucs. Alors à la fin de la fac, je... vit dans une sorte de ZAD, mais au début, il est dans un des bâtiments qui sert de dortoir, donc au début de la fac. Il nous explique que la fac, c'est cool, parce qu'on apprend plein de choses en dehors des cours. Et comme à son habitude, par les souvenirs de jeu, King place le décor. Les manifs contre la guerre au Vietnam, et les jeunes qui y mouraient, les émeutes de Chicago en 68, et les manifestants tabassés par les forces de l'ordre.
La bonne ambiance de l'époque.
Ouais, c'est ça, aux États-Unis, ouais. Jeu fait partie des étudiants travailleurs, comme il dit. C'est-à-dire, c'est des étudiants pauvres ou très pauvres qui sont boursiers et qui doivent aussi bosser à côté. Il met en avant la difficulté de réussir ses études dans ces conditions et ça me fait penser à ceux qui trouvent que c'était mieux avant. Ce point-là doit les rassurer, vu que 56 ans plus tard, rien n'a changé. Quand t'es pauvre, tu dois te démerder pour pouvoir faire des études.
On le verra un peu plus tard, mais ouais, c'est vraiment ça te met vraiment dans l'ambiance des élèves boursiers qui vont galérer et qui, du coup, là, en plus...
Ben, c'est ce qu'il explique, c'est que il bosse, il doit bosser du coup à côté de ses études pour pouvoir gagner un peu d'argent. Il est boursier parce que ça suffirait pas. Et pour pouvoir passer en deuxième année, il faut avoir, je crois, 1,6
un minimum
sur 5. Ouais. Sauf quand t'es boursier où il faut avoir 2,5. Donc t'as moins de temps pour bosser et il faut avoir en plus des meilleures notes. Enfin, sinon tu perds tes bourses. Tu peux passer en deuxième année, mais tu perds tes bourses, ce qui est pas envisageable.
C'est ça.
Donc l'un des gros problèmes de ceux qui sont entrés en première année de la fac, du coup en 66, comme lui, c'est le chasse-cœur. Alors à ce moment-là, j'avais rien compris, alors peut-être que mon résumé veut rien dire, je vous préviens. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel il faut parier de l'argent. Alors à l'origine, non, en fait, faut pas en parier, c'est eux qui ont décidé d'en parier. Et comme pour les boursiers, il est nécessaire d'avoir la moyenne pour rester boursier, bah, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas suivre, enfin ne peuvent pas poursuivre leurs études. Jouer ou étudier, il faut choisir. Et c'est ce que va faire je face au risque de devoir retourner chez ses parents et aller pointer à l'usine. Mais d'abord, il y a toute une nouvelle à dérouler.
Mais pour ceux qui connaissent pas le chasseur, c'est la dame de pique de Windows.
Ah,
oui. En vrai, ça s'appelle la dame de pique.
Ah, ok.
Parce que le jeu en anglais s'appelle Chasing Heart.
Il faut, c'est soit tu arrives à filer tes cœurs à tout le monde et la dame de pique, soit tu arrives à tout récupérer et tu fais un max de, tu niques tout le monde.
Donc le
but du jeu étant d'avoir le moins de points possible, c'est ça?
Oui.
C'est ça.
Donc le truc Windows est inspiré de ce jeu parce que j'ai vu qu'il existait réellement.
Même, je pense que c'est le même jeu, c'est juste que le nom est différent chez nous de là, le chasseur, je pense que c'est juste pour...
C'est parce une traduction littérale ou une traduction à la canadienne du nom du jeu qui est soit Hearts, soit Chasing Hearts.
Ah ok, moi j'avais vu Hearts, justement, ouais. Qui est une espèce de belote à l'envers, quoi, si j'ai bien compris.
Tu sais pas, je sais pas jouer à la belote.
Qu'on appelle la pomme chez moi.
Petit message à caractère prévention. Jouer comporte des gros risques d'addiction. Si vous ou un de vos proches êtes dépendant, n'hésitez pas à demander de l'aide et prenez soin de vous. On vous fait des bisous. Donc, je se fout un coup de pied au cul. Après tout, il veut être écrivain, pas juste prof d'anglais. Ça rappelle un peu quelqu'un de notre connaissance, même si lui, il ne nous connaît pas. Je parle de Steve.
Ah bon ?
Oui, mais ça, on sait jamais, il y en a peut-être, ils ont pas compris. Alors, il partage sa chambre avec un gars qui est à l'opposé de lui en tout point. Mais il est pas méchant. Et son meilleur pote a l'air d'être un con, selon mon jugement hâtif basé sur très peu d'éléments. À ce moment-là, vraiment...
Tu parles de son coloc... Alors, merci, j'ai oublié son nom.
Alors, d'un côté, il y a le coloc, Nate.
Nate, ouais. Et son pote, c'est Skip.
C'est ça, bah, je parle de Skip, qui, à ce moment-là de l'histoire, a l'air d'un con. Mais bon, après, pas tant que ça, en fait.
Ouais, c'est des cons étudiants, on va dire.
Ouais, c'est ça, voilà, c'est...
C'est des jeunes.
Personnellement, moi, je me suis reconnu dans certains trucs où j'étais pas très malin quand j'étais étudiant.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Pas choqué.
Ouais.
C'est ça. Donc, il a une petite amie qui est pas sur le campus.
Et ça l'arrange bien.
Enfin, ça va bien, l'arrange.
Oui.
Un soir qu'ils se dirigent tous vers le réfectoire, ils voient passer un gars avec un signe étrange sur le blouson. Donc c'est un gars avec des béquilles aussi, à ce moment-là je l'ai pas noté parce que je savais pas que c'était important.
C'est Stoke,
mais...
notre ami Stoke.
Exactement.
Plus que des béquilles, alors, hein, il a les, tu sais, les trucs en fer autour des... pas des, des jambes... autour des mollets là.
Ah ouais ? Il a carrément des...
Ah oui, il a carrément toute la panoplie.
Ok, je pensais... Okay.
Je me suis imaginé comme Forrest Gump, là, quand il a tout son attirail.
Ouais, un peu, ouais, quand il est gamin. Mm.
Ok.
Avant qu'il apprenne à courir.
Mm. Et donc, ce signe étrange, c'est un rond avec une trace de patte d'oiseau dedans. Alors, ils savent pas encore, mais ils viennent de voir pour la première fois de leur vie le signe de la paix, entre guillemets.
La description, je l'avais pas reconnue non plus.
C'est vrai ?
La patte d'oiseau, j'ai fait...
Ah si, si, ouais.
Alors, moi, je l'avais vu que la couverture m'a spoilé, tu vois.
Ah oui.
Tu sais, d'ailleurs, je pourrais la montrer, ce qui va pas aider ceux qui nous écoutent, mais hop.
Oui, non, ça va rien changer pour ceux qui écoutent.
Voilà.
C'est...
Ah oui, effectivement, oui. C'est bizarre comme...
Oui.
Il est bien chevelu, le gaillard.
Oui, c'est ça. Donc, si jamais, allez voir, c'est l'édition France Loisirs Pavé.
Donc, je bosse à la cantine du campus avec Carole. Oui, oui. C'est la même que dans la nouvelle précédente, pour qui il a le béguin. Donc c'est le point commun entre les deux nouvelles, la première et la deuxième, c'est Carole. Au détour de l'origine story du responsable des tâches du dortoir, on apprend que Je raconte son histoire en 1996, et quelques pages plus loin, qu'il s'appelle Pete Riley. Donc je vais l'appeler Pete à partir de là.
Bienvenue Pete.
Peut-être l'appeler Peter des fois, parce que je me suis plantée, mais c'est de lui dont on parle. Il nous dit aussi que c'est dès la deuxième partie de Cache-Cœur qu'il est tombé accro. C'est ce qu'on dit en général, hein. La drogue, hein?
T'as dit Cache-Cœur.
Ah ouais, ben je l'ai peut-être appelé Cache-Cœur aussi pendant tout le, toute la nouvelle. Mais c'est ce qu'on dit, c'est pas la première dose qui rend accro, c'est la deuxième.
C'est ça.
La partie où il a battu Ronnie, en fait, c'est surtout ça. C'est la partie où il a battu Ronnie, un sombre connard. Mais alors lui, c'est un sombre connard tout le temps, par contre. C'est pas...
C'est le prototype du mec très bruyant, très vulgaire, mais qui impressionne tellement... Surtout que, en fait, ce qu'ils nous disent dans le bouquin, c'est qu'il impressionne tous ces petits jeunes venus de la campagne, parce qu'il a une... Il a une grande gueule.
Il vient de la campagne, non?
Oui, mais il gueule plus fort que les autres. Et ah, il a plus, tu vois, il monte plus de confiance, il projette plus de confiance que les autres.
Il a de la gouaille.
C'est ça, de la gouaille.
C'est un leader négatif, Ronnie.
Oh, pas mal.
Un leader négatif.
C'est un leader, mais qui va tirer vers le bas au lieu de, d'aider les autres à...
Un parasite.
C'est un leader négatif. Non, 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 un parasite, tu le suis pas au bout du monde. Il s'accroche à toi ou partout où tu vas. Là, il arrive à ce que les gens le suivent. Donc plus tard, John Stock, dont on vient de parler, avec les béquilles, fera remarquer à Pete que partager ses jeux de cartes avec l'autre trou de fion, c'est lui donner du crédit.
Vrai.
C'est pas faux.
Et je vois les commentaires que j'ai mis. Je me souviens même pas d'avoir écrit ça. Je devais être dans un mood particulier. Donc ce soir-là, Pete, le même soir où il a gagné, je pense, la première partie, là, il propose à Carole d'aller au ciné. Alors elle précise qu'elle a un petit ami. Il précise que lui aussi. Et hop, il se galoche. Carole est aussi une travailleuse étudiante.
Il travaille dans les cuisines du campus, donc, si j'avais au petit détail.
C'est ça,
hein,
ils font la planche.
Avec les fameux plateaux, voilà, qui reviennent des étudiants. Ouais, voilà.
Ouais. Avec de la purée dans les verres, ce genre de choses. Et ben, pour avoir bossé là-dedans, ben, c'est vrai que c'est de la merde. Prenez soin de, pensez aux gens qui bossent, prenez soin de vos plateaux. Alors, en rentrant à sa chambre pour bûcher, Pete tombe sur ses camarades en train de jouer au chasse-cœur et se laisse entraîner. On apprend que cette passion-addiction pour le jeu le suivra longtemps. Pas forcément pour le chasse-cœur, mais pour d'autres jeux.
Et tu parles de ça
et pour
l'alcool, il fait
aussi
des références genre à sa femme et tout, quand il dit qu'il
c'est
joue
ça.
Que quelques parties.
Ouais, c'est ça. Et qu'il revient, il pue l'alcool et il a perdu plein de sous. À la fin du chapitre
Alors que
12,
le père du héros d'avant, de l'histoire d'avant, c'était pas vrai.
C'est ça.
C'est vrai.
Alors que là, c'est vrai. Alors, petit replacement, là encore, King, il a mis ça un peu partout dans la nouvelle. Il nous replace un peu dans le contexte de l'époque. La guerre au Vietnam, tout ça, les enrôlements des jeunes, les chefs d'État à côté de la plaque, le napalm et les premières manifestations contre cette guerre. Niveau études, c'est la catastrophe pour Pete. Le chasse-cœur le bouffe, on dirait moi pendant les études, mais avec les jeux vidéo ou les séries. Ça me faisait pas perdre de l'argent, ceci dit. Avec Carole, ça se précise. Mais s'il veut autre chose que juste des roulages de pelle, va falloir qu'il rompe avec sa copine au village. Mais ça aussi, il le repousse.
Mais
il n'a
Carole
pas le temps.
Aussi, d'ailleurs. Enfin, il joue. Y a Pete, mais Carole aussi, elle a un copain dans son village.
Oui, c'est ce qu'elle dit. Si on va plus loin, il faut qu'on soit célibataire. Mais elle, on sait pas. À ce moment-là, on ne sait pas comment elle le gère. Est-ce qu'elle a appelé de suite son copain ou pas Lui, par contre, il le dit. Il dit, je le ferai demain, mais là, je vais jouer, j'ai pas le temps. La première fois qu'un de ses camarades de dortoir arrête la fac à cause du jeu, Pete se prend une claque. Et si lui aussi était sur une pente plus raide que ce qu'il croyait? En plus de ne pas avoir envie de retourner vivre dans son patelin, le statut d'étudiant le protège de l'appel sous les drapeaux, puisque à cette époque-là, le fait d'être étudiant faisait que tu ne partais pas au Vietnam.
Je sais plus si Carole lui en a déjà parlé ou pas à ce moment-là.
Je crois qu'elle a déjà dit que si...
Enfin, en tout cas, arrêter de jouer et que... Elle sous-entendait...
Arrêter ses études, ce serait la mort pour lui.
Voilà, et que à ce moment-là, c'était une chance d'être une femme, en fait. Parce qu'au moins, t'étais pas...
Je sais pas si elle l'a déjà dit.
Ouais, je sais plus à quel moment elle dit, mais effectivement...
C'est plus tard. Je crois que c'est vraiment beaucoup plus tard.
Ah, c'est peut-être dans la voiture, ouais.
Ouais, c'est ça. Que ça, c'est... Pour elle, c'est pas les mêmes risques d'arrêter la fac que pour
c'est
lui.
C'est ça, dans la voiture mouk-mouk.
Bon, il se pose toutes ces questions... Mais c'est pas une petite partie de plus qui va changer la donne.
Bah non.
Allez,
demain,
une petite
il s'y
en
met
plus.
Sérieusement. On dirait vraiment moi, mais pendant toutes mes études. Et ça, il va se le dire souvent. Et il y croit. Et je crois qu'il y croit. Au second semestre, la moitié du dortoir est partie. Soit dans un autre dortoir parce que il savait qu'il pouvait pas rester là, soit pour rentrer chez eux parce que bon, ça valait plus la peine de rester.
Et c'est le dortoir du deuxième étage, en fait, si je me souviens bien. Je sais plus comment ils l'appellent.
Il y a plusieurs bâtiments. Il y a plusieurs bâtiments. Et eux, ils sont au deuxième étage de ce bâtiment.
Ah, alors c'est le bâtiment 2 ou c'est le deuxième étage? Parce que
C'est le deuxième étage de ce bâtiment.
Ah, ok.
Chamberlain, je crois, qui s'appelle.
Ouais. Il y a plusieurs bâtiments et plusieurs étages.
Il y a deux bâtiments pour les hommes et un pour les femmes.
Ah oui.
Pete est de plus en plus croque-love de Carole, qui, nous dit-il, n'est pas folle. Pas encore, en tout cas.
Croque-love.
Elle le deviendra à cause de la guerre au Vietnam, comme eux tous. Alors c'est ce qu'il dit à ce moment-là, en fait, pas tellement comme tout le monde, mais bon. Donc pour l'instant, ce n'est pour eux qu'un sujet de discussion pendant les tournois de chasse-cœur, la guerre au Vietnam en l'occurrence, mais c'est un sujet de plus en plus présent et les avis sont de plus en plus tranchés. Faut y aller, faut pas y aller, faut arrêter d'y aller.
Même Nate... Nate... Son... Ah bah voilà.
Ah, tiens, c'est ce que j'ai écrit, même Nate. Même Nate, le... Même Nate... Même Nate, le coturne de Pete, qui est si sérieux dans ses études, si neutre dans ses avis et si discret, se met à écouter de la musique oh là là, c'est dur à dire, contestataire. Ce qu'on appelle aujourd'hui de la musique de hippie, en gros. Hein. Oh, I marched to the Battle of New Orleans at the end of the early British wars. A young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. Un jour, dans le journal de Derry, les joueurs de chasse-cœur voient la photo de manifestants contre la conscription se faisant arrêter par la police. Ils reconnaissent Nate, donc. Il y a aussi Carole et Stock, leurs camarades handicapés qui ne se déplacent qu'en béquille. Et donc, on a dit plus que ça, en fait. Il porte sa veste en jean avec cette étrange patte d'oiseau au dos. Pete et son pote Skip vont voir Nate. Donc, Skip, j'en ai pas reparlé de jusque-là, mais c'est vraiment le meilleur pote de Pete et il est un peu là tout le temps. Et il joue lui aussi beaucoup.
Alors, juste, il est à mobilité réduite.
Pardon ?
T'as dit il est handicapé.
Ah, on peut plus dire handicapé maintenant. Oh, on peut plus. Oh là là.
Bah, bien sûr que si.
Il est en situation de handicap.
On peut plus rien dire.
J'ai réussi à être sérieux pendant 5 secondes.
Non mais c'est vrai que si tu veux être inclusif, t'as un terme qui est plus englobant que ça. On parle souvent dans nos tafs aussi. C'est que tu dis de quelqu'un qui quoi, quand tu parles d'une situation en situation de handicap comme ça, tu englobes ceux qui ont un vrai problème de vision et ceux qui l'ont mais temporairement. Tu vois, tu t'as une blessure à l'œil, un truc comme ça.
Donc le terme exact, enfin correct, c'est en situation de handicap, c'est ça ?
En français, oui.
Oui, le but étant de pas réduire la personne à son handicap.
D'accord, voilà. Je comprends.
Voilà.
Alors que les bonnes femmes.
Ok.
On va encore avoir des ennuis, nous.
Alors, il porte sa veste en jean, donc, sur la photo avec cette étrange patte d'oiseau au dos. Pete et son pote Skip vont voir Nate pour en savoir plus sur cette histoire, parce que, en plus, bah, c'est inattendu, surtout que Nate et Stock soient là-bas. Et en plus, il y avait Carole, et Carole, elle en avait pas vraiment parlé, à Pete, qu'elle allait là-bas.
Moi, pendant très, très longtemps, j'ai cru que ce truc de patte d'oiseau, c'était une merde d'oiseau qu'il avait sur sa veste.
Mais... Tu vois, je l'ai pas compris non plus tout de suite, hein.
Alors qu'ils le disent quasiment dès le départ. Il explique dès le départ que c'était le signe de la paix.
Ouais, mais
que c'était la première fois qu'il le voyait, donc.
Il a fait genre au Tipex.
Oui, il l'a fait lui-même.
Ça se dit Tipex, je sais plus en France.
Oui, ça se dit.
Je crois qu'il l'a dit en
France. Ouais, il a fait.
Tu n'offenses pas, j'allais dire. Tu... De correcteur.
Tu n'offenses personne en disant Tipex.
Mais voilà, il est mal fait en fait. C'est aussi pour ça que.
Alors Nate, non, il dit vraiment que c'était la première fois de sa vie qu'il le voyait, ce signe-là. Mm-hmm.
Voilà, et ça, oui.
Oui.
En plus, donc.
Ah, mais c'était Julien, je crois, qui disait que c'était un caca d'oiseau. Mais c'est parce que c'était mal fait. Voilà, c'est là que je voulais en venir.
C'est ça. T'as pas reconnu Julien parce que c'était mal fait.
Ouais, c'est ça.
Donc Skip et Pete vont voir Nate, le coturne de Pete. Et Nate, il fait pas le fier. Il est allé à la manif, par conviction. Mais au dernier moment, il n'a pas osé rejoindre le groupe, il est resté à l'écart. En fait, il a eu peur de se faire arrêter, que sa mère l'apprenne. Et il s'en veut d'avoir eu cette réaction. Parce que si je dis pas de bêtises, Nate, il vient d'une famille pas très favorisée non plus. Et son but, c'est de devenir dentiste. Enfin, c'est pas rien. Il vient pas genre d'une famille très riche qui l'envoie à la fac comme tout le monde. De toute façon, il est à l'université publique.
De toute façon, tous les gens qui sont dans cette fac, à part le mec de l'étage, je crois qu'ils sont tous de milieu assez.
Ben c'est la fac publique ouvrier, aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, quand t'as les moyens, tu vas pas dans le public. Excusez-moi, je bois un peu.
Ah, bravo pour le monteur.
Donc, voilà. M'en fous, c'est moi. Je fais ça si je veux. Bon bref, en tout cas, Nate, il s'en veut d'avoir eu cette réaction, de pas être allé au bout de ses convictions par peur de sa mère. On découvre un Pete jaloux aussi lorsqu'il apprend que Carol est allée là-bas dans la voiture d'un gars qu'il ne connaît même pas. Pete, c'est vraiment la caricature du gars qui sort du lycée, donc il y a quoi, 18, 19 ans, qui croit qu'il est déjà un homme et qu'en fait, c'est juste un merdeux. Je trouve que c'est une bonne caricature.
Et c'est cette jalousie qui va faire que lui aussi va s'intéresser finalement au Vietnam. Avant ça, il n'avait vraiment rien à carrer.
Exactement. Ben moi, c'est comme ça que j'ai découvert Final Fantasy VII, par exemple.
Alors là, va falloir expliquer.
Oui, là, on veut l'anecdote personnelle.
Eh ben, il y avait un gars qui jouait à Final Fantasy VII au collège, et je voulais qu'il me regarde moi plus que les autres. Alors, je me suis mise à jouer à Final Fantasy VII, et en fait, ce jeu est trop bien.
Est-ce que ça a marché?
Ce mec est nul. Non, ça a pas marché.
Mais au moins, alors tu t'es bien
fait
amusé.
Un cosplay d'Aerys ou de Tifa. Là,
ouais, ah, alors, là. C'était dans les années, c'était.
D'ailleurs, t'es plutôt Aerys.
Deuxième
ou
moitié.
Tifa
Moi, complètement Tifa.
Complètement Tifa, ça va avec la nouvelle.
On va être dissous. Merde. Bon, bref, donc Nate explique à ses deux potes l'origine de ce que veut dire donc cette forme de patte d'oiseau, et c'est le moment, la réponse D de l'épisode. En fait, et je l'ai appris aussi en lisant du coup le bouquin de Stephen King, lisez des livres, on apprend des choses.
C'est vrai.
Donc en fait, il s'agit du signe de la paix, ça on l'avait compris, formé à partir de deux signes des sémaphores britanniques, le N et le D, qui sont les initiales de Nuclear Disarmament. Nuclear Disarmament. Mmh. Et il a été inventé par Bertrand Russell dans les années 50. Moi je pensais que c'était beaucoup plus vieux comme signe.
Moi j'en avais aucune idée de...
On faisait pas la paix avant.
Non. De d'où ça venait, la paix n'existait pas. Aucune idée pour le
coup. Non, vraiment, pareil, aucune idée. Et je savais pas non plus qu'à la base, c'était un signe pour le désarmement nucléaire, que c'était pas le signe de la paix de manière globale.
Bah, c'est-à-dire que, ouais, dans les années 60, la guerre, la menace nucléaire / atomique, c'était quelque chose d'assez présent.
Oui. Donc, Ah oui, et puis, oui, ça passe. Il y a des périodes où ça n'a pas trop changé, mais... Non, oui, c'est complètement cohérent, mais vraiment, je savais pas du tout. Vous le saviez ?
Non,
vraiment pas.
Dans le livre aussi. Mm.
Alors, à ce moment-là, ils mettent un morceau de musique pour remonter le moral de leur pote. Et aussi, à ce moment-là du livre, Pete appelle son groupe les Atlantidiens. J'ai pas compris pourquoi. Il y fait référence régulièrement, mais en vrai, on s'en fout, je trouve.
Franchement, tu sais, les noms des groupes, tu les trouves parfois...
Non, c'est alors, son groupe de potes.
Il doit y avoir une référence, soit une des chansons qu'on a vues avant, soit pour moi aussi, il a peut-être lu de la mythologie. Il se dit, c'est le vieux qui dit que le jeune est en train de sombrer comme l'Atlantide.
J'imagine, il doit y avoir un truc comme ça, mais en réalité, ça, c'est de la déco, en fait, dans cette histoire, on s'en fout.
Ah oui.
Sachant que moi, toute la nouvelle, j'étais persuadée que comme la nouvelle 1, elle était liée à la Tour Sombre, et du coup, je me demandais quel était le lien entre l'Atlantide et la Tour Sombre, et je comprenais rien.
Tu cherches encore.
Et je cherche toujours, d'ailleurs.
Ouais, alors, donc, j'ai pas lu la suite, donc je me suis dit, c'est peut-être un fil rouge que j'ai pas encore, donc.
L'Atlantide?
Ouais, l'Atlantide.
Non, c'est vraiment juste celle-là.
Ok, bon. Non. Alors, pourquoi ce titre, mais bref.
Parce que c'est une chanson qu'il a écoutée. Peut-être que King, jeune étudiant, a entendu cette chanson à peu près à cette époque-là, et ça l'a marqué, et du coup, il l'a mis dans son histoire. Je vois bien un truc comme ça. Si Emily était là, elle pourrait répondre à nos questions. Bref, le même soir, Carol demande à voir Pete. Elle est inquiète. Si son père voit la photo dans le journal, il la foutra à la porte. Elle raconte à Pete la fois où les gros costauds de son patelin lui sont tombés dessus avec une batte de baseball alors qu'elle n'avait que 11 ans et comment Bobby s'est occupé d'elle puis l'a un peu vengée. Donc ça, on en parle dans la première nouvelle.
C'était bien ce passage.
En tout cas, il était bien raconté par Grand-Paul, j'ai trouvé ça intéressant.
Enfin oui aussi, mais je parle
quand elle
dans
en parle,
nouvelle, comment elle en parle, ce passage, il est bien écrit.
Oui, oui, tout à fait.
On sent l'émotion.
On sent son amour.
Et du coup, elle dit que c'est grâce à ses actions que ça lui a donné envie, ça l'a motivé à aller aux manifestations contre la paix, pour la paix.
Oui, tout à fait.
Pardon. Faut taper des gueules.
Je crois que son truc, c'était de dire que quand elle a été vraiment au plus bas, il y a quelqu'un, son pote, en l'occurrence, qui a pris soin d'elle, qui l'a portée, qui l'a pas lâchée, qui l'a pas laissée tomber. Et du coup, elle se dit qu'il faut qu'elle fasse pareil. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris.
Mmh. Ouais, puis que t'as pas besoin d'avoir des gros bras pour c'est le lutter aussi, ouais. Pour la paix, en fait.
Ah ben, tu vois, quand j'ai lu l'histoire au début, j'ai marqué, je n'ai absolument pas compris le rapport entre Bobby, la batte de baseball et être contre la guerre, contre le Vietnam. Mais on le comprend après, en fait, en lisant l'histoire. Finalement, Pete et elle vont retirer l'autocollant républicain qui traîne sur la vieille voiture familiale de Pete. Je l'ai dit tout à l'heure, il vient d'une famille républicaine.
C'est aussi à partir de ce moment-là qu'on voit que le sentiment anti-guerre va se répandre parmi les étudiants et va aussi les diviser de plus en plus.
Moi, je me suis posé une question à un moment donné, c'est... Parce que là, quand même, les étudiants, ils font partie des presque premiers concernés par cette guerre, puisque si leurs études plantent... Mmh. Ils sont appelés à aller au Vietnam. Est-ce que s'ils n'avaient pas du tout été concernés, ils auraient eu autant un avis sur la question ? Hein, les petits salauds, là. Je pense qu'à leur gueule, en fait.
Bah, sûrement pas, parce que c'est pas à cause de chez eux.
Ouais, moi, je pense qu'ils sont pas si concernés que ça. Hein. Ils en parlent, mais de façon lointaine, en fait, je crois.
Ils ont quand même les copains qui partent au fur et à mesure, et ils savent que s'ils arrêtent leurs études, ils pourront partir aussi. Donc,
ouais, mais tu vois, ils savent pas trop ce qui se passe, ils savent pas vraiment.
Pour l'instant, les copains
ouais.
qui partent au fur et à mesure, c'est ils lâchent l'école, ou alors ils sortent du dortoir carrément pour échapper aux parties de chasseurs. Ils retournent chez eux, ils vont pas forcer.
On sait pas.
À ce moment-là, aucun moment, on nous dit qu'ils partent à la guerre.
Non, je parlais pas forcément des copains. Non, oui, ça j'ai extrapolé en fait. Je me dis, à cette époque-là, t'as cet âge-là, tu dois forcément avoir des potes qui sont pas partis à la fac après le lycée et qui du coup partent au Vietnam. Mm. Mais c'est pas dit dans le bouquin, oui. C'est moi qui ai extrapolé.
Oui, ce qui est possible parce que t'as des gens qui s'enrôlent simplement dans l'armée au lieu de faire des études, tu vois.
Il y a ça aussi. Donc petit à petit, tout ce petit monde se politise dans un camp ou dans un autre. À la veille des vacances de Thanksgiving, parce que moi, à ce moment-là, je pensais qu'on était presque à la fin de la première année, on est à la veille des vacances de Thanksgiving, tout le monde s'est rétamé aux examens, mais l'organisation des tables de chasse-cœur a été améliorée. Faut
c'est
pas tout faire.
Premier partiel, quoi.
Attention, point culotte. Pete et Carol baissent dans la voiture, et à un moment, Carol a toujours sa culotte. En fait, elle va quitter la fac pour s'occuper de sa mère qui est alcoolique. Elle rappelle à Pete que si lui est renvoyé, il partira de force pour le Vietnam, et qu'il faut qu'il arrête de jouer. Évidemment, Pete le sait déjà. Quand même, il est pas con. Ça va.
J'avais oublié ce point culotte qui est quand même assez goldé maintenant que j'y repense.
c'est assez détaillé, je trouve, voilà. Ce passage. Ça aurait pu être écrit par Emma Green.
Voilà, pardon, grand poil.
Non, mais je voulais juste dire qu'à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a une espèce de fatalisme qui s'est installé parmi les étudiants qui sont restants. Carole amène une distraction à Pete, mais il est complètement accro et ils commencent vraiment tous un peu à se dire, même Pete là, il est plus en mode je vais pouvoir rattraper les choses.
Mais en fait, Carole, moi je trouve que c'est le seul élément qui le sort de, oui. du jeu quoi. Je me dis, finalement.
Oui, c'est ça.
Il a le jeu et Carole, mais c'est tout quoi. Ah, et son boulot, ouais.
Ouais, et son boulot, mais parce que sinon il mange pas ouais. quoi. Au moment de partir en vacances, Nate, donc le coloc, qui ne dit jamais rien, lui rappelle que c'est un abruti de se laisser virer à cause d'un jeu.
Ouais.
C'est pas faux.
Et que quand même, Nate lui dit quand même c'est qu'il est un chouette gars et que c'est quand même nul qu'il parte. Pete continue avec ses « Non, t'inquiète, je gère », mais il sait au fond de lui que c'est exactement ce qui va se passer. De toute façon, de manière générale, ne jamais faire confiance à quelqu'un qui dit « T'inquiète, je gère ». C'est une règle.
Surtout avec une addiction,
pendant les vacances,
je dirais.
Tout, pour tout et n'importe quoi. T'inquiète, je vais le faire. T'inquiète, je gère. Non.
Tiens-toi ta culotte, c'est moi qui pilote.
point culotte.
Et c'est raccord avec notre point culotte pour la peine.
Exactement. Pendant les vacances, Pete essaye de rattraper son retard, mais c'est chaud. Il dessine aussi l'empreinte de moineau dans le dos de son blouson de lycée. Blouson qu'il portera lors de futurs manifs auxquels il va participer. Pete fait le plein de bonnes résolutions pendant les vacances qui volent en éclats une heure après son retour. Mais il est content de retrouver Skip, son meilleur ami qu'il aime sincèrement, et Nate, dont il devient de plus en plus proche.
Juste quand même, pendant les vacances, on voit quelques échanges avec sa mère. C'est elle qui a des mots très durs sur. Et qui dit que les garçons qui n'ont pas travaillé assez dur meurent.
Oui.
C'est là aussi où on comprend vraiment l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête, s'il ne reste pas étudiant, il va filer au Vietnam.
Oui, pour sa mère, c'est le seul moyen que son fils meure pas, c'est que surtout il arrête pas ses études. D'ailleurs, elle lui dit, si t'as besoin de plus d'argent, si t'as besoin surtout, t'hésites pas. Alors que, vu qu'il est un travailleur pauvre, on se doute que sa famille a pas beaucoup d'argent non plus. Elle est prête à tout pour que surtout il arrête pas ses études. La vie continue. Pete ne va même plus en cours, et même qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a écrit « Fuck Johnson » sur le mur de la cantoche. Alors Johnson, c'est le président à ce moment-là. Et donc c'est marrant, je trouve, perso, de voir l'évolution des habitudes, parce qu'à cette époque, c'est du jamais vu ou presque. Il y a écrit « Fuck » sur le mur de la cantine, c'est un outrage, c'est horrible, machin. Nous, de notre époque, « Fuck » sur le mur de la cantine, c'est une déco comme une autre.
Je pense que même maintenant, aux États-Unis, le mot « fuck », c'est insupportable.
Oui, c'est vrai qu'il dit, même à la télé, il dit « F-word ».
Mon Dieu ! Mais...
Alors que bon, putain, ça va, quoi. C'est comme mot, faut arrêter.
Ouais, mais putain, en français, c'est pour tout, tu vois. T'es content, tu dis putain, t'es pas content, tu dis putain, t'es... Enfin, voilà, c'est...
Mais quand tu écoutes...
Tu peux dire fuck, yes.
Ouais, voilà, quand t'écoutes les Américains parler, le fuck, il sert à tout, hein. Ça peut être positif ou négatif. Vrai, hein.
J'avoue. Oui, d'ailleurs, juste... il dit que...
Surtout pas la télé,
c'est juste de l'hypocrisie, ouais, de la part de la censure des chaînes de télé.
Ah, bravo, les bien-pensants, hein.
Ouais.
On se croit meilleur que les Américains.
Pete nous rappelle qu'un acteur, d'ailleurs, à cette époque-là, est en prison pour avoir dit fuck à la télé. Je suis pas allé chercher qui c'était. Si ça vous intéresse, allez-y.
Ah ouais, carrément.
Alors, tout le monde sait... Ouais. Tout le monde sait que c'est Stock qui a écrit ça. Et qu'il, lui-même, il ne le niera pas. Bon, on sent que Stock, il a un peu une attitude un peu autodestructrice aussi dans son comportement. L'autre truc marrant... C'est les étudiants qui, petit à petit, se mettent à dessiner des pattes de moineau sur leurs vêtements. C'est un signe de reconnaissance pas encore connu, et c'est subversif à ce moment-là. Tout se perd, ma bonne dame, parce que de nos jours, je suis sûre que tu peux trouver des strings avec la patte de moineau en paillettes, et tout de suite, c'est moins un signe de reconnaissance.
C'est
moins subversif,
c'est
je veux dire.
Voilà, c'est moins subversif.
Bah, sauf si tu le fais dépasser de ton jean.
Ah, ça, c'est la base.
Ouais, mais du coup, c'est pas subversif pour les mêmes raisons qu'à l'époque. Non.
Est-ce que la ficelle du string forme la patte de moineau?
Le soir même, un déluge s'abat sur le campus. Mais un déluge, pas la petite pluie, hein, c'est des coulées de boue, c'est... voilà.
Ah bah c'est Stock la tempête de Derry à la fin de ça. Hein.
Stock, qui est dehors avec ses béquilles, se casse la gueule dans la boue et manque d'y rester, noyé dans cette fameuse boue, justement, parce que vu son handicap, il n'arrive pas à se relever. Heureusement, les branleurs qui jouent aux cartes ont tout vu et après un fou rire hystérique, ils descendent l'aider. Mais alors la description de ce fou rire, je l'ai trouvé fabuleuse.
Oui.
Ah mais tu sens que
enfin, je la voyais.
Enfin, alors il y a un peu le mélange du c'est un peu des enfoirés, mais il y a aussi le mélange où ils sont vraiment à bout de nerfs. Enfin, ils sont cuits les étudiants.
Oui.
Là,
ils bah, il y en a un qui se pisse dessus. Donc en fait, il le voit, la personne à mobilité réduite, ça, bref.
Stock, il s'appelle Stock.
Voilà. Donc, il monte, en fait, et tout pour essayer d'échapper à ça. Et en fait, quand ils se cassent la gueule, ils ont le fou rire, mais à se pisser dessus.
Alors, en plus.
Et quand il est dans l'eau, se passe un petit moment avant qu'il soit là en mode, ouais, bon, c'est la merde. Mais ils sont toujours dans leur fou rire, en fait. Et ça va durer encore très longtemps, ce fou rire. C'est vraiment.
Mais c'est ça. C'est vraiment
c'est
le
mystérieux,
fou,
en fait.
Le fou au sens premier du terme. Il y a plus rien qui a de sens dans ce rire. Même le, parce que, en fait, Stock, il est pas aimé, globalement, des gens, ou très peu. Soit les gens s'en foutent, soit ils l'aiment pas parce qu'il est un peu hautain, il se tient à l'écart, il parle pas de lui, puis il les juge de jouer.
Oui,
tout
il
le temps,
est super bizarre. C'est quoi qu'il dit déjà tout le temps quand il a la tête,
Rip,
voilà.
Il marmonne rip.
Ouais, c'est un peu bizarre quand même.
Et,
C'est pour se moquer.
Non, c'est Pete qui dit que il se demande si c'est pas Rip au sens Reaper, enfin comment ça s'appelle
Rest in peace.
Éventré.
Ah oui, d'accord, oui, éventré, oui, effectivement, déchiré.
Voilà. En tout cas, quelque chose de pas très sympa.
Mais en fait, ils en savent rien. C'est Pete qui pense ça. Et donc, quand ils le voient par la fenêtre, et ils éclatent de rire tellement que Pete, en fait, il dit à ce moment-là qu'il se rend compte que c'est il y a rien de drôle en fait dans ce qui est en train d'arriver à Stock. Mais que c'est un fou rire qui prend tout le monde et qui a plus de sens.
Ouais, complètement incontrôlable et contagieux.
C'est ça. Donc ils descendent l'aider quand même. Ils galèrent à le sortir de la boue alors qu'ils sont plusieurs. Donc pour dire à quel point il est vraiment dans la boue, lui il se débat, il veut pas être aidé.
Ouais, et à quel point il rigole aussi.
Et les autres rigolent et puis ils l'amènent à l'infirmerie. Ils le portent jusqu'à l'infirmerie. Pendant tout ce passage, Pete ne cesse donc de repenser à ce que Carol lui a dit sur l'agression dont elle a été victime. Au début, il rigolait. Et à un moment, il ne rigolait plus. C'est elle qui dit ça. que au début, quand ils sont venus la faire chier, c'était pour rigoler. Il y a eu un moment où ça a switché, ils ont arrêté de rigoler, ils lui tapaient dessus pour de vrai avec la batte. Et ça, ça le travaille, ce truc de au début, il rigolait, puis à un moment, il rigolait plus. Une fois arrivé à l'infirmerie, le médecin demande à quoi est due l'infirmité de Stock, et ben, personne sait répondre. Beaucoup se foutent de lui souvent, mais finalement, personne ne sait. Et Nate, par contre, lui, il le sait. Parce que un jour au bar, il y a un gars d'un autre dortoir qui lui a demandé, tout de go, comme on dit. Et Stock a répondu tout simplement. En fait, il y a 4 ans, sa famille a eu un accident de voiture, ils sont tous morts sauf lui. Grosse ambiance. Lui, il a eu une rupture de la colonne vertébrale.
C'est ça, hilarant.
C'est top.
Je suis c'est mort de rire.
Et en fait, au moment où il dit ça, enfin où Nate dit ça, il y en a encore qui rigolent
oui,
en fait
sont,
dans le groupe.
Ils sont toujours en train de se marrer.
C'est ça. Et avant de partir de l'infirmerie, l'aide-soignante demande au groupe pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés hilar et pourquoi certains ricanent encore. Et Skip, donc le meilleur pote de Pete, répond en toute sincérité que ce sont les malheurs de Stock qui les ont fait rire. Et quand l'infirmière répond qu'ils sont ignobles, Skip dit « Oui, c'est vrai, vous avez raison, on est ignobles. » Voilà.
C'est vrai.
Donc, tout ça a l'air d'agir comme un électrochoc pour Pete. Il prend Skip à part et lui dit qu'il veut arrêter le jeu de cartes. Même pas tellement pour les notes. Il n'est même plus sûr de pouvoir rattraper son retard, mais il veut plus être dans cette espèce de meute. Il se rend compte que en fait, il est embringué et que c'est plus lui, quoi, quelque part, je pense.
Ça fait comme une secte. Il est
Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ils décident de s'entraider les deux et de réviser ensemble sur le peu de temps qu'il leur reste. De retour au dortoir, le joueur némésis de Pete, donc je me oublie son nom, Ronnie, fait tout pour l'attirer à sa table. Genre, il le provoque, il l'insulte, machin, mais Pete résiste. Il nous dit qu'il n'a plus rejoué à ce jeu de toute la fac et qu'il a appris plus tard à ses gosses à y jouer, mais sans la partie argent.
Et il dit aussi que ses gosses, ils s'y sont, enfin, pendant les vacances où ils y jouaient, ils avaient tendance à devenir aussi rapidement accros.
C'est ça. Et eux, c'était pas, donc il y avait pas de l'argent à gagner. Par contre, ils gagnaient la Coupe de l'Atlantide et ils remettaient en jeu tous les étés.
Ah oui.
Donc le soir même, ou le lendemain, je sais plus, on s'en fout un peu, à peu près au même moment, quoi, une réunion du dortoir est organisée par l'élève responsable du dortoir, dont on a appris plus tôt qu'en fait, lui, il est arrivé là via une prépa militaire, et il est très le devoir, la patrie, tout ça, quoi.
Procédurier.
Donc, il y a l'élève responsable du dortoir, le doyen des élèves, et le président de l'université, et ben, ils veulent savoir qui c'est qui a écrit « fuck ». Les trois, là, désignent de suite Stock, puisqu'il est le seul à porter le signe de la paix sur lui de manière ostentatoire. Mais les autres gars qui sont tous là le détrompent. En fait, ils le portent tous, que depuis ce soit sur leur blouson, leurs vêtements, leurs chaussettes, et ce depuis bien avant les vacances de, j'allais dire de la Toussaint, mais c'est ça, de Thanksgiving. Donc, ils peuvent tous être coupables. Tout le monde fait front ensemble, et en fait, c'est sur une idée de Skip, parce qu'ils ont tous deviné que Stock allait se faire tomber dessus. Pour cette raison-là.
Et que et donc, le responsable d'étage, là, qui est quand même un sale con,
oui.
Il en perd tout, ses, tout, il en perd son latin de ce fait de que les autres lui résistent, quoi.
C'est ça. Et en fait, c'est Skip qui a dit, avant de retourner jouer ou faire ce que vous voulez, tous vous dessinez quelque part, on s'en fout sur vos chaussettes, votre slip, votre casquette, vous dessinez ce signe. Et bah, en fait, moi, il m'a un peu fait mal au cœur, le chef de. Au tout début, il est détestable. Le chef de dortoir là, et en fait après tu te rends compte qu'il est pas beaucoup plus vieux qu'eux, il doit avoir 19-20 ans à tout casser.
Ah oui.
Qu'il est embrigué depuis longtemps, enfin il y a un côté triste en fait dans tout ça
jusqu'au bout, quoi.
Ouais. En tout cas c'est beau la sororité hein.
C'est pas de la sororité à ce moment là mais ouais. Alors quelques jours plus tard, quand Stock se réveille enfin et qu'il apprend ça, parce qu'en fait Stock en plus il avait une pneumonie qu'il n'avait pas soignée depuis plusieurs semaines.
Ah oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en gros il était là, ouais laissez-moi crever quoi. C'était,
oui,
il essayait pas de sortir de l'eau quoi. C'était,
ouais,
c'était pas
ça,
se
fait,
suicider,
vraiment...
mais disons se laisser mourir plutôt. Enfin moi je l'ai.
Ouais, il avait laissé tomber.
Voilà.
Bah en même temps, ouais.
Donc il luttait en fait, il luttait contre eux. Pour pas qu'il le relève.
Et donc en fait, il est dégoûté d'apprendre qu'ils lui ont volé sa révolte. Parce que c'était son truc d'être un peu le révolté. Finalement, il accepte l'aide de ses camarades. Pour remercier Skip de l'avoir porté jusqu'à la chambre de l'infirmerie sans le faire tomber comme un sac, il lui conseille de quitter la section sport. Il rappelle que ce n'est pas une bonne période pour faire partie d'un groupe qui porte un uniforme. Et c'est ce que va faire Skip d'ailleurs. Finalement, oui.
Non, rien, j'ai juste fait.
Ok. Merci. Finalement, Stock quittera cette université un peu plus tard, mais Pete nous dit que 20 ans plus tard, il l'a vu débarquer à la télé en tant qu'avocat très classe, sur un fauteuil roulant rouge, toujours engagé dans des combats et plutôt écolo maintenant. Genre, c'était pas Greenpeace, c'était le Rainbow Warrior, un truc comme ça, enfin bon, voilà, sur ce genre de truc. Quelques jours plus tard, fort de sa nouvelle révolution aussi quelque part, Pete demande un supplément d'argent à sa mère pour engager un tuteur pour l'aider. Donc là, on est juste quelques jours après les vacances de Thanksgiving. Il en profite pour en engager un aussi pour son pote Skip. Sympa. Sur les conseils d'un des doyens, ils ont également fait le tour de leurs profs pour expliquer leur situation et demander de l'aide. Quasi tous ont été assez sympas pour mettre des notes qui leur permettraient de rester, mais aussi de garder leur bourse. Mmh. Pete explique qu'en fait, ils ont accepté pour ne pas risquer qu'ils se retrouvent appelés sous les drapeaux et de pas un jour lire le nom de cet élève à qui ils auraient pu mettre un demi-point de plus et peut-être ça lui aurait sauvé la vie. Donc c'est un côté un peu militant aussi finalement d'avoir mis ces notes.
Et protecteur. C'est dur de se dire que
ta vie
ne tient qu'à une note quoi.
Ta vie ne peut tenir qu'à 0,1. À Noël, Pete reçoit un colis de Carole, parce que Carole lui avait dit « Si tu m'aimes, ne me contacte pas, laisse-moi te contacter », et c'est ce qu'il a fait. Donc à Noël, Pete reçoit un colis de Carole avec le livre que Bobby lisait l'été où elle a été agressée. Donc ça renvoie à la première nouvelle, « Sa Majesté des Mouches ». Elle lui raconte aussi comment elle s'est retrouvée avec des points de suture suite à une manif contre la conscription. Parce que là, maintenant, Liva, elle fonce dans le tas.
Ah ouais, elle est à fond, là.
On apprend que Pete n'est plus du tout en contact avec elle aujourd'hui et qu'elle est même peut-être morte en fait, il en sait rien, mais ça ne l'étonnerait pas. Et sachant que Pete a environ 50 ans, on est sur une grosse ambiance du coup, si elle est déjà morte.
Tu sens qu'il a vu virer extrémiste dans ses combats.
Ouais. Alors de ce que j'ai compris, voilà, c'est ce que j'ai noté, elle a rejoint un groupe d'activistes poseurs de bombes. Si j'ai bien compris, parce qu'il parle aussi d'un chimiste qui est mort dans l'explosion d'une des bombes, mais c'était pas prévu, mais c'est arrivé, bon bref. Finalement, Skip et Pete passent leurs examens avec succès et ne se font pas virer, contrairement à d'autres. Et ben, dans ces autres, certains sont appelés à partir au Vietnam. Ronnie, entre autres.
Notamment Ronnie.
Exactement. Skip est devenu... Alors, on passe à la suite. On revient de nos jours, en fait, à peu près. Donc, par la suite, Skip est devenu un artiste avec une petite notoriété internationale, mais il est mort d'une crise cardiaque il y a 2 mois. Et moi, à partir de ce moment-là, j'avais plus à lire tellement je pleurais.
Ah ouais?
Ah ouais, vraiment. Ouais. Mais moi, ce genre d'histoire, en fait, où tu racontes ta jeunesse et tout d'un coup, pouf, tu passes à de nos jours. Enfin, puisque c'est un peu comme ça que c'est présenté, de nos jours. Mm. Et que tu vois, c'est ce côté, ah, on était jeunes, on était frais, bon, ben maintenant, on est vieux et on est mort. Ça me défonce à chaque fois.
Bon, après, je pense que...
C'est cordes sensibles.
Je pense quand on vieillit... On n'est pas, pas encore assez vieux, tu me diras, mais c'est vrai que quand tu repenses aux gens que tu fréquentais dans les études, bah, moi, il y en a plein déjà que j'ai plus du tout de contact, que j'ai aucun moyen de les retrouver, et globalement que la majorité a pris une autre direction que toi, quoi.
Ah oui, non, mais là, il est mort.
Ouais, alors là.
Son meilleur ami. Parce qu'on apprend que c'était toujours son meilleur ami.
Voilà, là, t'es dans le niveau supérieur, disons, qui va aussi nous arriver.
C'est pas quelqu'un qu'il a vu, qu'il a connu pendant ses études et qu'il a plus revu depuis. C'était toujours son meilleur ami. Il continue à se voir très régulièrement. Ils étaient très proches et il l'a vu quelques jours avant sa mort.
Ah oui, c'est juste, j'avais zappé ça, effectivement, oui.
Tu vois, il y a ce côté-là. Mais tu vois, quand j'étais ado, j'ai regardé beaucoup, parce que, bon, bref, la vie est comme ça, le château de ma mère, de Pagnol, enfin, le film, du coup, l'adaptation. Je peux plus regarder la bande-annonce sans me mettre à pleurer à cause de la fin de ce putain de film.
Le regarder beaucoup, c'est du masochisme.
Non, j'adore. J'adorais. Maintenant, je peux plus, mais j'adorais. Mais parce que c'est ça. Ils sont tous jeunes, beaux, frais, en train de faire un apéro sous un arbre. Blanc, enfin noir, image suivante. 5 ans plus tard, la mère est morte, ils sont tous tristes. C'est pas possible, les fins comme ça.
C'est
Et là,
vie.
C'est un peu ce qui se passe. Bref.
Nate
est devenu dentiste, comme prévu. Oui, pardon.
Tu l'as vu le premier jour du reste de ta vie?
Non.
Bah, regarde-le.
Rien que le titre, j'ai pas eu envie de le voir.
Tu m'étonnes.
Donc Nate est devenu dentiste, comme prévu, et il s'est marié avec sa fiancée de l'époque, comme prévu. Puis il a eu 3 enfants, comme prévu.
Il avait son plan de vie bien défini.
Ouais, et puis heureux, a priori, il continue à Noël, il s'envoie une carte à Noël pour se donner des nouvelles. Et puis bah voilà, l'histoire finit un peu comme ça en fait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter?
Bah vivement les suivantes.
C'est ça.
Ouais, j'avoue.
Vivement qu'on passe à la suite.
Vous avez commencé à les lire ou pas?
Non. Ah, il me reste la dernière. Là. Je suis sur la fin de la dernière, donc y a, c'est bien. Tu vois les petits liens entre chaque qui se construisent, qui sont. Et la dernière, tu fais.
Je vais pleurer.
Ouais, c'est vrai qu'en général, j'évite de trop avancer dans les histoires parce que sinon, j'ai tendance à un peu mélanger, donc j'ai pas lu.
Moi, j'ai presque fini la troisième nouvelle, mais j'ai attaqué la tour sombre, le tome 7.
Prendre la horse.
Bon, bah écoutez.
Tu vas peut-être pleurer la tour sombre aussi. Hein.
Oh, arrête! Ça suffit! Bien! Je vous propose du coup qu'on se laisse là pour cette fois.
Bah
et puis
oui.
De toute façon, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, pour la dernière partie de. Putain, on l'aura fait en 3 épisodes quand même. C'est,
moins d'une
c'est le seul.
J'allais dire, ce sera un petit épisode.
Mais ouais. Franchement, heureusement qu'on l'a pas fait la dernière fois parce qu'on aurait été vraiment dur.
Oui, mais il y a on était dans le dur, ouais. Non, mais il y a le film aussi.
Et y a
mais ça, on en parle la prochaine fois.
Oui, mais du coup, il n'y a pas que les 3 petites histoires.
Non, la prochaine fois, il y a les 3 dernières nouvelles. C'est un épisode complet. Les 3 dernières nouvelles, la place dans l'œuvre de King, les adaptations, la théorie de Hurd, les questions des auditeurs.
D'accord.
Voilà.
Bah, tout le monde l'a déjà appris.
Et j'en profite de l'épisode juste donc pour repréciser, parce qu'on a fait un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'on allait découper un peu l'épisode. Et beaucoup de gens se sont inquiétés. On ne va pas faire des mini-épisodes tout le temps. On fait un gros épisode. Enfin, on va continuer comme on fait d'habitude. Et il y a 2 parties, donc la place dans l'œuvre et la théorie de Hurd, qu'on va prendre après coup. Donc d'abord, vous l'aurez entendu dans tout l'épisode, et après, on va aussi la mettre tout seul pour les gens qui préfèrent écouter que ça. Il y a plein de gens qui se sont inquiétés qu'on change complètement la façon de faire
vos
épisodes.
Je peux faire du mansplaining.
Vas-y.
Si vous écoutiez l'épisode avant, rien ne change. Vous aurez toujours le même épisode. Voilà.
C'est vrai, mais si tu veux.
J'ai reformulé un peu ce que t'as dit. En plus simple.
Ouais, mais si tu veux peut-être réécouter plus tard.
Oui, mais tu m'as pas expliqué à moi ce que j'essayais déjà de dire. Tu vois. C'est en ça que c'est
Mais j'avoue
il a fait du man clarifying.
Ouais. Non mais j'avoue, quand vous en avez parlé au début, moi j'ai rien capté, donc c'est bien de repréciser.
Ah, toi non plus.
Donc oui, non, moi non plus.
Les épisodes de 3 heures seront toujours là et toujours complets.
Voilà.
Ça ne change rien pour vous.
Et n'empêche,
fidèle auditeurice.
Comme on a déjà sorti l'épisode de les 2 premiers, donc pour Insomnie, la place dans l'œuvre et la théorie de Hurd, et ben c'est la première fois que je suis concentrée pour écouter la partie d'Emily. Du coup, j'étais contente. C'est très bien.
Et ce qui est drôle, je sais pas, mais on a des journées moyennes qui sont plus hautes en termes d'écoute depuis qu'on fait ça. Alors qu'en soi, ça a rien changé pour les gens qui nous écoutaient avant.
C'est quoi une journée moyenne? C'est d'écoute de.
En fait,
oui, le nombre.
Avant, on était
moyennes.
Genre à une centaine d'écoutes par jour. On va dire hors sortie d'un nouvel épisode,
ouais.
Tu vois, genre les semaines creuses, entre guillemets. Et là, on est plutôt à 150-200.
D'accord.
Oui, donc les gens ont quand même envie d'écouter ces extraits d'épisodes.
C'est ça, très bien.
Merci de votre fidélité.
Parlez-en nous, n'hésitez pas. Hein. Surtout si vous aimez ma partie, bien sûr.
Alors, si vous n'aimez pas, venez nous dire ça en DM. On trouvera votre adresse.
Je vous envoie un chat ninja ou un hamster.
Un hamster oracle.
Hamster oracle. Ah, vous avez le choix, en fait. Il y a 2 sortes de hamsters, donc vous aurez le choix.
Bon, on se quitte là. On se fait des bisous. On se dit que le roi Steven est un podcast du label Podcut, qu'il y a plein d'autres podcasts à écouter, que nous avons un Patreon et qu'il ne faut pas hésiter à donner.
Podcut.
1 euro, 2 euros, 100 euros pour que Grand Poil puisse avoir une pièce supplémentaire pour s'y enfermer.
Pour pouvoir enfermer sa belle-mère et son chien.
Ou ses enfants, selon les jours.
Ou ses enfants. Ou sa femme.
Venez sur le Discord discuter avec nous ou sur les réseaux sociaux. Venez sur le Discord ou les réseaux sociaux discuter avec nous parce que c'est chouette de discuter. De même, tout simplement. Et puis, des bisous et dans 15 jours.
À bientôt,
ciao.
Merci
bye
beaucoup,
bye bye.
c'est lancé.
Non, ça y est, vraiment.
Oui. Ok, c'est bon.
J'ai envie de faire un remix avec Bilal. Sur ce son. Kader. Surnommant Kader.
Du coup, je sais jamais, est-ce que tu fais une première phrase ou pas, Aymeric?
Ah, pardon.
Et non pas la nouvelle phrase.
Non, je sais pas, je sais pas.
Non, bah non.
Je bois un peu, désolé.
Hop. Et on peut couper.
C'est très bizarre de faire un épisode aussi court.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.